Je désire un mari de 60 à 70 ans. Je voudrais qu'il eût une de ces figures vénérables qui inspirent à la fois l'estime et le respect, qu'il ait un beau nom. Je préfère roi, s'il est possible. Un ancien noble que des malheurs, hélas, trop communs au roi ruiné. Je le veux sans aucune fortune, désirant lui donner au moins 3000 francs de rente viagère. Il aura de plus son logement de mon hôtel et ma table.
Cette annonce, c'est l'annonce d'une prétendue Émilie, qui est parue dans les petites affiches en 1813. Comme vous l'avez entendu, elle offre en mariage une offre tout à fait alléchante à un ancien noble. C'est vraiment la clientèle qui est ciblée ici. Un ancien noble qui serait ruiné du fait de la Révolution française. Beaucoup de nobles subissent ce sentiment de déclassement. Émilie est donc tout à fait attrayante pour tout un tas de prétendants, n'a peut-être jamais existé, et peut-être une stratégie publicitaire de la part de Claude Villaume. Claude Villaume, qui est le premier agent matrimonial qui se revendique avec cette étiquette, qui a fondé la première agence sous l'Empire, en essayant de faire comme une sorte de bureau central où on pourrait centraliser non seulement les demandes d'emploi, les offres d'emploi, mais aussi les offres et les demandes de mariage. Cette invention-là, c'est une semi-invention, parce qu'il y a toujours eu des marieuses, il y a toujours eu des entremetteuses. Vous connaissez probablement Frosine de l'Avare, mais la différence au début du 19e siècle, c'est que les agents matrimoniaux deviennent de véritables professionnels, et d'ailleurs c'est souvent des hommes qui portent cette professionnalisation. Alors ça ne veut pas dire que les marieuses disparaissent, elles sont toujours là, mais on va les rétribuer plutôt avec des cadeaux, on les invite à la noce, etc. Elles jouent plutôt sur la dénégation de l'économie, alors que les agents matrimoniaux ont des commissions sur la dot. Villaume n'est pas le seul à trouver que l'idée est bonne, puisque comme d'autres agents d'affaires sous la monarchie de Juillet, ils se font concurrence entre agents d'affaires, et le fait de choisir, de proposer une offre d'intermédiation matrimoniale, c'est une manière de se distinguer de la concurrence sur le marché matrimonial. Et comme lui, Charles-Henri Napoléon de Foix ouvre une agence qui est promise à un très grand avenir pendant tout le 19e siècle. C'est la plus connue, c'est même lui de Foix qui est connu comme le père tutélaire de la profession. Et on a pu retrouver ces registres qui nous permettent de comprendre ce qui se passe lorsqu'un client pousse la porte de l'agence matrimoniale et se retrouve face à l'agent.
Madame la comtesse Louise Niezabitowska, 25 ans, hôtel de la paix numéro 28, rue de la paix. Belle et bien faite, riche. Sa femme de chambre, Julie, nous dit qu'il faut dire qu'on l'a vue place de la Madeleine au numéro 15, connue du comte d'Apon. Dire qu'on est depuis longtemps amoureux. Eh ben, elle est à Paris, hein, depuis décembre. Intéresser la femme de chambre. Dot 200 000 francs. Mademoiselle Chevalier, 25 ans, fille d'un grenetier, rue des Carmes, numéro 41. Un frère, père mort, petite, elle perd des urines. Par Monsieur Moulin, mademoiselle, elle ne m'a pas donné son nom. 21 ans, fille d'un propriétaire qui a 40 000 francs de rente. Un fils de 25. Fort jolie, chante très bien, parfaitement élevée, dot 20 000 francs. Mademoiselle Pelletier, 19 ans, père fabricant de chocolat, rue Saint-Denis, numéro 71, très jolie, les cheveux un peu rouges, de couleur de rose. Un frère de 21 ans, père et mère riches. Madame Détouche, 36 ans, limonadière au café grec, rue Saint-Martin, près de la rue Aubel, brune, fraîche. Un fils de 14 ans. Veuve du 1er janvier 1841, 30 000 francs. Madame Couturier, 19 ans, rue Lafitte, numéro 42. On suppose qu'elle est fille naturelle. Dot, 25 000 francs. Espérance, 100 000 francs. Mesdemoiselles Blanchard, 17 et 18 ans, créole. Rue du Dauphin, petite, bien faite, père absent, une sœur mariée.
Alors, on l'entend, l'agent matrimonial n'a pas toutes les informations. Il y a des informations très précises qu'il connaît sur le corps de ces femmes, sur la perception du corps de ces femmes. Et pourtant, il n'a pas toujours les noms, il n'a pas toujours les adresses. Comment est-ce qu'on explique ça ? Ben, on l'explique parce que l'agent matrimonial a tout un réseau de rabatteurs, le comte d'Apon, la bonne, la femme de chambre, le concierge, etc. Pour avoir un vivier de clientèle féminine suffisamment attrayant pour sa clientèle masculine, l'agent matrimonial a recours à tout ce réseau d'intermédiaires qui fait circuler les informations. Alors, quelles sont les informations qu'il fait circuler ? Il y a des informations donc sur les critères physiques qui sont donc importants pour ces messieurs, mais surtout, ce qui est très important, c'est le patrimoine, puisque on est au début du 19e siècle. Le mariage, c'est une alliance de famille, et donc on allie ensemble deux patrimoines. Donc on a des dots, on a des héritages. Et lorsque lorsque les familles viennent à l'agence matrimoniale, elles se retrouvent face à un registre un petit peu différent.
Monsieur Sonnet, 27 ans, pâtissier, passage Tivoli, 19, petit blond, a acheté son fonds 4000 francs, a payé 2005. Monsieur Le Barbier, 46 ans, négociant en dentelle. Rue de Cléry, numéro 13, bel homme de l'esprit, 10 000 francs de dot, 15 000 d'espérance. Monsieur Devin, 28 ans, épicier, rue du Helder, au numéro 3, assez bien, 10 000 francs. Monsieur Charpentier, 25 ans, épicier, rue Saint-Sébastien, au coin de la rue Popincourt, joli garçon, aimable, son commerce, très lucratif, 10 000 francs. Monsieur Perrusson, 40 ans, horloger, place du Châtelet, au numéro 4, 10 000 francs. Monsieur Duchemin, 30 ans, marchand de sucre, rue de la Verrerie au numéro 54, grand, beau physique, hein, fait 2 millions d'affaires par an, gagne 25 000 francs, il a père, mère et une sœur. Monsieur Floriot, 36 ans, employé au ministère de l'instruction publique, grand, brun, spirituel, son père est juge, il y a 4 enfants, 45 rue d'Argenteuil au numéro 45, un héritage à 20 000 francs.
Donc les hommes sont très souvent inscrits d'eux-mêmes, c'est eux qui poussent la porte, il y a beaucoup moins d'intermédiaires qui viennent vendre les informations pour dire qu'un tel est beau garçon ou a tant de dot. Ça explique aussi, c'est la raison pour laquelle il y a moins de détails, et en revanche il y a une information qui revient systématiquement, épicier, négociant, marchand, la profession. En fait, on demande aux hommes, bien sûr, d'avoir du patrimoine pour qu'il soit à peu près équivalent à celui des femmes, mais surtout d'avoir une profession d'avenir pour pouvoir faire fructifier le patrimoine que eux vont recevoir en mariage, la dot de leur future épouse. Ça explique aussi que ces messieurs sont un peu plus âgés que les femmes, puisque les femmes, elles sont inscrites non seulement à leur insu pour une grande partie d'entre elles, donc en fait, elles n'ont pas besoin d'aller à l'agence matrimoniale, elles sont toutes jeunes, hein, entre 18 et 25 ans. Ces femmes-là, elles ont déjà leur capital à faire jouer sur le marché matrimonial. Elles ont le capital jeunesse, mais elles ont aussi le capital du patrimoine, puisque c'est celui qui aura été accumulé à la génération précédente. Donc, autant on attend des femmes qu'elles aient du passé, on attend des hommes qu'ils aient de l'avenir, des situations d'avenir. Donc, ces agences, c'est comme celle de Charles-Henri Napoléon deux fois, elles sont de plus en plus nombreuses au fil du siècle. Les journalistes s'en émeuvent, comme ils s'émeuvent aujourd'hui de l'essor des réseaux sociaux. Ça devient un trait du paysage médiatique. Et elles sont de plus en plus visibles à la fin du 19e siècle parce que la presse connaît un nouvel essor à partir de 1880. C'est le moment où la Troisième République devient véritablement républicaine. Il y a des lois qui sont prises pour favoriser le développement de la presse. Donc il devient de moins en moins difficile, de moins en moins cher de faire paraître une feuille, comme on dit. Et donc, non seulement les agences matrimoniales vont faire paraître leur propre catalogue des feuilles matrimoniales avec des petites annonces exclusivement pour appâter le chaland, donner envie sur leur propre stock, on va dire. Et en même temps, elles passent aussi leurs annonces, parfois pour leur clientèle, parfois juste des publicités, dans la presse générale. On arrive donc à la fin du 19e siècle. Ces quatrièmes pages des grands journaux, de la presse générale, comme vous le voyez à l'écran, développent toute une nouvelle poétique, toute une nouvelle manière de parler et de lire aussi, puisque on paye à la ligne. Donc, il y a toute une série d'abréviations et de codes. On va vous en donner quelques-uns. Dans le livre, il y a un glossaire qui vous permet de décrypter les annonces de la fin du XIXe siècle. On peut retrouver l'expression « demi-monde s'abstenir ».
Monsieur, jeune, instruit, très affectueux, désire un mariage avec dame du vrai monde, élégante, spirituelle, riche. Sérieux, agence, demi-monde s'abstenir.
Alors, du vrai monde, est-ce qu'il y aurait donc un faux monde ? Oui, en réalité, dans les annonces, il y a aussi des prostituées, donc des demi-mondaines, la prostitution dite de luxe, qui utilisent fausses propositions de mariage pour faire du racolage qui ne tombe pas sous le coup de la loi. On va retrouver aussi des formulations qu'on peut voir dans les registres des agences, comme « espérance ».
Un officier de marine, âgé de 39 ans, aimant la vie de famille, ayant outre son traitement 150 000 francs d'espérance de sa mère. Désire épouser jeune fille de 22 à 24 ans, jolie, instruite, ayant 100 000 de dot, outre les espérances. Écrire initial EMD 2633, bureau du journal.
Alors, vous l'avez compris, on espère toucher le gros lot, c'est-à-dire l'héritage d'un parent dont parfois on mentionne l'état de santé plus ou moins bon. C'est par pudeur pour le parent en question qu'on parle de ses espérances, mais c'est aussi une manière de dire que c'est un argent qu'on n'a pas encore touché et qu'on ne sait pas encore à quel moment on pourra le toucher. On trouve aussi la mention que vous connaissez peut-être de mariage avec tâche.
Mariage, demoiselle, 23 ans, honorable, 800 000 francs, tâche dans la famille, épouserait personne honorable et de bonne éducation, voir monsieur Lefebvre, 180 rue Saint-Antoine, Paris, très sérieux. Ou encore, on demande jeune duc ou marquis pour mariage avec tâche, 2 millions, poste restante, boulevard Ornano.
Alors, la tache, elle fait référence à la tache première de la défloration, donc le sang qui s'écoule au moment où la jeune fille dite séduite ou tombée est déflorée hors mariage. Et cette tache-là, elle peut rejaillir sur l'enfant hors mariage lorsqu'il est là, ce qui peut s'accompagner dans les annonces d'une autre formulation. Si une jeune fille dit qu'elle est pressée, c'est peut-être parce que le ventre s'arrondit. Notez que cette expression au masculin n'a pas du tout le même sens. Un homme pressé dans les annonces, c'est souvent qu'il a une ruine qu'il faut combler rapidement. Et dans les deux cas, ce type de défaut doit être compensé par quelque chose. Alors là, on a entendu que le mariage avec tâche a été compensé par les 2 millions de dot. Donc, c'est tout à fait un bon plan pour les coureurs de dot qui sont prêts à passer sur un mariage avec tâche pour, pourquoi pas, éponger une ruine. On trouve également la mention « divorce profit ».
Très sérieux, monsieur divorcé profit, un fils élevé, fortune 500 000 environ, propriété et valeur, occupant situation officielle, désire mariage avec personne très sérieuse, de 35 à 40 ans, intelligente, instruite, douce, aimant campagne et fortune en rapport.
Alors, quel est ce profit en question ? À partir de 1884, le divorce est à nouveau autorisé. Ce droit avait été supprimé en 1816, mais il n'est autorisé que pour faute. Donc, lorsqu'il y a un jugement, la faute revient sur l'un des deux anciens époux. Donc, lorsqu'on se remet sur le marché matrimonial, il faut faire preuve de son exemplarité dans le précédent mariage et donc de son exemplarité morale, ne pas avoir eu de faute, c'est-à-dire pas d'adultère et, dans le cas des hommes, pas de violence conjugale. C'est aussi la raison pour laquelle, dans ces annonces, on va trouver une surenchère de garantie et mention de sérieux, de très sérieux. On peut trouver aussi beaucoup d'abréviations sur les mots les plus connus, sur les formules les plus connues, et vous en connaissez peut-être, BSTR, bien sous tout rapport, peut-être un peu moins connu, post-R, post-restante, c'est une manière de ne pas recevoir son courrier chez soi, mais d'aller le chercher puisqu'il reste dans un bureau de poste, et donc d'éviter la curiosité du concierge ou de la famille. Donc, on choisit les mots sur lesquels on veut mettre des abréviations, mais parfois, les mots sont chers, on met beaucoup d'abréviations, ce qui donne une sorte de novlangue dont les initiés doivent deviner ce qu'il y a derrière les points.
Femme d'Esmar, Dem 45 Aïe, Dot 25 000, Béfi et Mort, Avmemon, Citrap, Ek, Aï, Dis, Jnal. Ou encore Dame 29 A, TR, BCR, 6 000, RD, Mar, Cit, R, Béjnal. Vœu 39 A, Cit, 5 000, Dot, 20 000, Ep, M, Citrap, D, 5, Jal. MB 30 A, Cit, 8 000, Ep, Dame, Citrap, T, 64, Jnal.
Qui donne ? Lorsqu'on les déplie.
Famille, désir, mariée, demoiselle, 45 ans, ayant dot 25 000 francs, bien physiquement et moralement, avec monsieur honorable, situation en rapport, écrit aux initiales AY, 10 au journal. Ou encore, dame 29 ans, très bien, sérieuse, 6 000 francs, désir, mariage avec monsieur, situation en rapport, bureau du journal. Veuve, 39 ans, situation 5 000 dot, 20 000, espérance, épouserait monsieur, situation en rapport, D5 au journal. Ou encore, monsieur, 47 ans, ayant satisfait ses obligations militaires, situation 40 000 francs et économie, allant s'établir dans jolie colonie saine, désir connaître pour mariage, dame, âge et situation même modeste si seule, qui consentirait à le suivre, proposition très sérieuse, agence ou intermédiaire, s'abstenir.
Donc vous voyez qu'il y a des mots qui dépassent, il y a des annonces qui ressemblent plus ou moins aux autres. Attraper l'œil, ça peut être pour le meilleur et pour le pire. Et les utilisateurs et les utilisatrices d'annonces sont habitués à repérer ce qui est de l'ordre du normal ou de ce qui ne l'est pas. Ici, cette annonce-là, c'est l'annonce de Landru, en réalité. Landru, vous le connaissez peut-être, ce tueur en série qui, dans les débuts du XXe siècle, utilisait précisément les petites annonces de la quatrième page des grands journaux pour recruter ses victimes. Et vous voyez, une annonce dépliée avec moult précisions peut faire envie. Il y avait aussi une autre stratégie de la part de Landru à partir de la Première Guerre mondiale, étant donné le déséquilibre numérique des sexes, étant donné la difficulté projetée des femmes à se marier, Landru misait précisément sur des femmes qui étaient un peu au-delà de l'âge moyen au mariage, voire bien au-delà, des femmes entre 40 et 50 ans, des femmes divorcées, justement, qui auraient plus de mal à se remarier. Alors, le cas des criminels, très documenté par la presse sensationnaliste, est exceptionnel. En revanche, ça fait beaucoup de bruit, c'est un imaginaire qui façonne totalement la pratique des rencontres par annonce. Dans un registre un peu moins grave, il y a aussi des arnaqueuses et des escrocs qui utilisent les annonces pour de l'escroquerie au mariage. Ça, c'est un délit qui est nouveau au XIXe siècle et qui est précisément rendu possible par l'utilisation des annonces. On connaît l'histoire d'un couple d'arnaqueuses, Evelyn Lille et Justine Penel. Vous avez Evelyn Lille à l'écran ici, qui avait un mode opératoire bien rodé. Et ce mode opératoire consistait d'abord à passer de fausses annonces pour une seule et même personne.
Demoiselle, grande fortune, indépendante, épouserait monsieur riche, écrire élevé au Figaro. Veuve riche, épouserait monsieur honorable, ayant fortune, rien des agences, écrire HY au Figaro.
Donc ces deux annonces sont censées décrire la même personne, ici Evelyn Lille. Vous notez qu'elles ont un point commun, la richesse. Dans les deux cas, ce sont des annonces tout à fait alléchantes pour des coureurs de dot qui voudraient faire un mariage rapide et avantageux. Donc, elles entament des correspondances. Parfois, la fausse marieuse y met du sien et elle négocie, elle dit qu'elle négocie auprès de la riche héritière. Les négociations vont bon train, on fait des voyages, on se rencontre à Paris, on va à l'opéra. En tout cas, toutes les petites démarches sont prétextes à débourser des frais de bureau, comme le disent les agents matrimoniaux. Et pour justifier ces frais de bureau, il y a toute une histoire qui est racontée. Celle qu'aiment beaucoup raconter Evelyn Lille et Justine Pétnel, c'est qu'Evelyn Lille est anglaise. Et donc, pour pouvoir voir les fiançailles aboutir, il faut aller en Angleterre, ce qui peut justifier tout un tas de dépenses. C'est ce dont essaye de convaincre la marieuse à son client.
Mais si je vous parle de ces questions, c'est parce que vous ne connaissez pas les usages anglais, il serait ennuyeux si elle avait à vous les apprendre. Position bien délicate pour une femme du monde. Il faut lui dire, « Madame, je sais que les usages de votre pays sont d'offrir une bague et un bracelet. Voulez-vous choisir ces objets vous-même ? » Si elle dit oui, alors arrangez-vous pour avoir avec vous le nécessaire, car pour les deux objets, il faudra bien compter pour quelque chose de beau dans les 3 000 à 4 000 francs. Écriture raturée, initialement écrit 4 et 5. Pour les deux objets ensemble, ce qui est très raisonnable, car à Paris, vous ne trouverez rien à ce prix-là, hein, de beau, hein, seulement à Londres. Il serait ennuyeux si, lorsque vous allez choisir, vous n'avez pas tout de suite de quoi payer les objets. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, tenez-vous prêt dans cette circonstance pour avoir le nécessaire. La famille sera satisfaite et vous serez dans une belle position puisque vous faites les choses grandement et non avec mesquinerie.
Voilà, donc les voyages sont prétexte à débourser tout un tas de sommes. Et la marieuse fait en sorte de les raccrocher à l'espoir de toucher la grosse dot. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ses correspondances. Elle leur dit, vous faites une avance en fait, une avance, mais vous allez le recevoir au centuple. Donc c'est pas grand-chose finalement, qu'est-ce qu'un bracelet à 4 ou 5 000 francs ? De toute façon, vous allez recevoir la grosse dot, sauf que de grosses dots, il n'y a pas. Et la fiancée fictive finit toujours par disparaître pour tout un tas de raisons. Tantôt, c'est que finalement, elle n'est plus si amoureuse qu'elle le pensait. On a des plus pour un faux pas. Tout est prétexte à faux pas. La famille s'oppose au mariage. Les mœurs anglaises n'ont pas été comprises. Ou alors, plus radical encore, la fiancée est tombée malade et est décédée brutalement. Néanmoins, les dupes sont nombreux et certains portent plainte. Et face aux tribunaux, devant l'insistance des juges pour comprendre ce qui s'est passé, devant la moquerie du public, voire des journalistes qui aiment beaucoup ces histoires et qui les racontent ensuite dans les chroniques des tribunaux, les escroqués essayent de se justifier.
Mais certainement, l'insistance mise par Madame Reynolds pour se faire remettre l'argent m'avait paru extraordinaire, surtout pour une personne dans sa situation. Mais je savais aussi que les fiançailles étaient d'une très grande importance en Angleterre et que les usages de ce pays sont bien différents des nôtres.
Donc, c'est bien dans le mode opératoire de ces deux arnaqueuses d'utiliser le prétexte de la nationalité anglaise de Miss Lille pour justifier les dépenses. Et pour ne pas être accusée de promesses de mariage non tenues, ça peut être l'autre délit qui leur est reproché, voilà comment Miss Lille se justifie auprès de Monsieur le juge.
Mais les cadeaux, ainsi que les sommes d'argent que j'ai reçues de Monsieur Comte, ont été données par lui, non parce que j'étais sa fiancée, mais parce que j'avais été sa maîtresse. J'ai rendu à Monsieur le Comte la bague de fiançailles qu'il m'avait donnée, ainsi que les 1 000 francs qu'il m'avait prêtés. Je n'ai pas reçu d'autres sommes.
Donc là, l'argumentaire est intéressant. Elle donne comme argument le fait de ne pas avoir été sa fiancée, mais sa maîtresse. Et pour un juge de la fin du 19e siècle, cet argument peut être entendable. En fait, elle met en avant ce qui a été théorisé bien des années plus tard par le courant du féminisme matérialiste, le continuum de l'échange économico-sexuel, le fait que la sexualité des femmes D'une manière ou d'une autre, se monnaie dans la prostitution, dans les relations entre un amant et une maîtresse, et ou dans le mariage. Et elle joue sur les degrés de variation dans ce continuum pour montrer qu'elle n'est pas tout à fait dans l'illégalité et qu'elle était tout à fait dans son droit de recevoir des cadeaux puisqu'elle avait monnayé sa sexualité par ce biais-là. Alors, la fin du XIXe siècle, c'est une sorte d'apogée du marché de la rencontre et la Première Guerre mondiale aurait pu être un coup d'arrêt, sonner l'arrêt de ce marché-là. Mais ça n'a pas été le cas, puisque pendant la Première Guerre mondiale, vous savez probablement qu'il y a eu un phénomène nouveau, celui des marraines de guerre, les poilus recevant des colis, des correspondances de la part de marraines qui, au départ, étaient choisies par des associations de manière très contrôlée, dans une idée de bonne moralité, donner des familles de substitution. Mais rapidement, la presse frivole et galante qui, dès la fin du XIXe siècle, avait des annonces matrimoniales ou des annonces qui cachaient des prostituées, ont ouvert des rubriques de rencontres, dont certaines ont des noms tout à fait évocateurs, le fleur sur le front, pour précisément que les soldats puissent demander des marraines. Ce nouveau marché-là de la rencontre non matrimoniale a donné un nouvel élan à l'histoire du marché de la rencontre. Et puis, une fois la guerre terminée, le pays est en proie à une crise nataliste. On craint la dépopulation, on craint que le manque d'hommes sur le marché matrimonial donne naissance à toute une génération de femmes seules. Et c'est une image qui fait très peur. Une femme seule qui n'est pas dans le cadre du foyer, c'est le risque de son autonomie. On stigmatise les vieilles filles, on a peur des femmes trop autonomes. Donc la presse matrimoniale utilise ce courant patriotique et nataliste pour se justifier. Et donc, alors qu'on avait dans la presse de la fin du XIXe siècle, sur une même page d'annonce, une rubrique mariage, une rubrique autre, divertissement, où on pouvait avoir des annonces prostitutionnelles, des annonces d'adultère, là, dans l'entre-deux-guerres, il y a deux genres de presse différents. Donc, c'est de la presse magazine, la presse matrimoniale, qui est vraiment qui donne une surenchère de garanties patriotiques, catholiques, de bonne moralité, et la presse érotique et frivole. Et à la faveur de ce développement du marché, la pratique de rencontres par annonce se développe également. Elle devient de moins en moins marginale. Et à tel point que dans la presse féminine, dans les courriers de lectrices, on se donne des conseils. Comment faire pour passer une annonce, puisque parfois c'est bien le seul moyen qu'on a pour se marier. Comment faire pour ne pas tomber sur un Landru? Et la presse féminine elle-même elle cherche à éduquer ses lectrices pour trouver le bon mari dans cette diversité d'offres. Le journal Claudine en fait un jeu, le jeu des petites annonces auquel vous allez jouer avec nous.
Je vais vous présenter donc 6 propositions. Soyez bien attentifs, vous allez voter. Alors en premier, je vous propose un veuf entre deux âges, très grande fortune, physique agréable, bon garçon, affectueux, spirituel, dans les spiritueux, épouserait femme de cœur, même sans fortune, 1947. En deuxième, nous avons un industriel sympathique, belle relation, adore la campagne, situation indépendante, espérance, épouserait personne bien, sténodactylo. En trois, on a en instance de divorce, profession importante, mais d'alimentation, 48 ans, intérieur confortable, cherche en vue de mariage, femme de même ou désire le devenir, fait plus jeune que son âge. En 4, nous avons un célibataire, sentiment noble, beau physique de théâtre, 1m80, doux, affectueux, mère charmante, bel avenir, épouserait jeune fille, même modestement dotée ou travaillant. En 5, nous avons un homme mûr, jeune de caractère, mais délicat, grosse fortune, propriété foncière, cherche en vue mariage, jeune fille vivant dans grand domaine près de Paris. Et enfin, nous avons un jeune homme pauvre mais travailleur, sérieux, diminué physiquement par la guerre, épouserait jeune fille affectueuse en rapport.
C'est à vous de choisir.
Donc voilà, je vous redis hein, rapidement. Alors en un, c'était un veuf entre deux âges, mais très grande fortune. Voilà. Voilà. Est-ce que ça intéresse
À main levée.
À main levée.
Qui est intéressé? Il va falloir choisir.
Bon.
Notre veuf.
On a. Ok. Ah, quand même. Ah ben voilà. Eh ben merci.
Trois.
On a trois. On a trois veufs. On va vous proposer maintenant l'industriel sympathique. Belle relation. Indépendante, espérance.
L'industriel,
ça change ça.
Que des écolos.
Nous avons en instance de divorce, mais profession importante, mais d'alimentation. Intéressant ça.
Deux, trois, quatre.
Trois, quatre, d'accord. Et ensuite, nous avons un célibataire au sentiment noble, beau physique de théâtre. C'est évidemment 1m80, doux, affectueux, mère
oui,
charmante.
Oui, très bien. Une dizaine. Oh là,
ouais, bien sûr. Ouais, séduisant, bien sûr. Ensuite, homme mûr, jeune de caractère, mais délicat, grosse fortune.
Non.
Personne n'en veut, tu vois. Okay. Et enfin, le jeune homme pauvre, mais travailleur, sérieux, diminué par, physiquement par la guerre, épouserait jeune fille affectueuse.
Oui, d'accord. 5-6.
Donc, c'est lesquels, donc, du coup, c'est...
Alors, l'homme de théâtre.
Oui, mais il n'y en avait pas un avant. Si. Non, mais il nous en faut trois d'abord. On va prendre les trois meilleurs. Alors, attendez. Donc, on a l'industriel, ça va intéresser personne. Mais il y avait des gens qui étaient sur la profession importante d'alimentation. Si, ça. Donc, tu veux peut-être une lis Jules Ratapoil et ensuite.
Oui. Voilà vos futurs époux. Jules Ratapoil. Sa femme, qui tenait la caisse, est partie avec cette dernière. Et avec lui, c'est-à-dire avec son troisième commis, le dernier. Mais les derniers ne deviennent-ils pas les premiers? Il est sympathique, Ratapoil, il a bonne mine. Ça, c'est l'alimentation qui veut ça. Avouez que son charme agit sur vous. Le charme Ratapoil, bien sûr. Pas celui de l'alimentation.
Numéro 3, hein, pour ceux qui cherchent.
Vous pensez bien que nous ne pensions pas un instant que vous puissiez avoir de telles pensées. Vous tiendrez la caisse, comme la caisse vous tiendra, et grâce à l'alimentation, vous deviendrez une femme confortable. N'est-ce pas ça, le bonheur?
Voilà, pour ceux qui ont choisi le théâtre, eh bien, il s'agit d'Ernest Colin-Quin. Ah, le bel Adonis! Il a bien un physique de théâtre, Ernest, c'est le numéro 4. Et puis, quelle voix! Un filet, certes, et après, avec un micro, ça peut devenir un filon. Mais pour jouer les traîtres et les exécuteurs de hautes œuvres quant aux sentiments nobles, si vous ne les reconnaissez pas, c'est qu'ils sont discrets. Sa douceur, son affection, il les consacre à Coco, son perroquet, et peut-être à sa mère, votre future belle maman. N'a-t-elle pas un visage charmant, souriant, prometteur, belle maman? Allons, vous allez avoir beaucoup de bonheur. Votre modeste dot, le fruit de votre travail, qui en profitera? Ernest, qui pourra librement se consacrer à son art. Coco, qui verra doubler sa ration de sucre, et belle maman, naturellement, qui a si bon caractère et qui est si reconnaissante. Et alors là, on avait un autre, quand même. Où on va directement à... Non, on avait un autre. Le 6, ça, oui, mais on en avait un autre avant.
Pelu,
peut-être.
Vous ne l'avez pas choisi, vous l'aurez quand même.
Ouais. Ah, vous ne l'avez pas choisi. On l'aime bien. Tu diras, Jean-Vernier. Bon, alors, c'est le...
Le 5.
C'est le 5. Magnifique, Onésime Pelu. Mûr, disons blé. Enfin, très blé, même. Un être qui ne serait pas désintéressé comme vous l'êtes. Penserait, tant mieux, c'est ce que j'espérais. J'hériterais plus vite. Heureusement, ce n'est pas le cas. Eh bien, non, Onésime Pelu, qui a 80 ans et qui est jeune de caractère, dit-il, vivra, nous le savons, jusqu'à 110 ans. Il est grincheux, sale, insupportable, avare, et ce qu'il attend de vous, c'est que vous deveniez sa jeune garde et en même temps que sa prisonnière. Vous voilà bien puni si vous vous êtes laissé séduire par l'âge. On peut le dire. Et le beau domaine près de Paris. Et enfin,
Jean Verny. C'est inattendu, n'est-ce pas? Il est magnifique, Jean, le prince charmant. Nous avons voulu vous récompenser, parce qu'en faisant ce choix, sans l'avoir vu, vous avez donné la preuve de votre bon cœur, de votre désintéressement et d'autres qualités encore.
Bravo.
Alors, nous avons voulu vous faire cette bonne surprise. Jean est beau, riche, doux, sportif. Enfin, tel que vous le méritez. Bravo. Vous l'avez reconnu, c'est le numéro 6. Alors, Jean, qui était présenté comme un blessé de guerre, c'est pas étonnant qu'il soit présenté comme un blessé de guerre. On est dans l'entre-deux-guerres et effectivement, il y a toute une série de discours qui entretiennent l'idée que les femmes doivent faire preuve de bon cœur pour épouser des blessés de guerre. Mais en même temps, vous voyez que notre blessé de guerre, et comme dans beaucoup de cartes postales de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, il a des traits d'acteur hollywoodien. Et c'est pas non plus étonnant, puisque c'est une période où le cinéma se développe et où les goûts des jeunes filles en particulier, sont façonnés aussi par ces nouvelles images qui apparaissent dans la presse qu'elles feuillettent. Alors, dans les annonces matrimoniales, on le voit apparaître, mais vraiment à la marge. De la même manière que dans les registres d'agences matrimoniales qu'on avait vus au début, c'est plutôt le corps des femmes qui est décrit, et bien de la même manière, dans les annonces matrimoniales du début du XXe siècle, il y a un peu plus de critères physiques qu'à la fin du XIXe siècle, mais c'est plutôt dans les attentes des hommes et dans les descriptions des femmes. Les femmes sont regardées et les hommes sont regardants. Mais c'est donc pas dans les annonces matrimoniales qu'on va trouver le plus de romantisme, le plus de laisser aller au flirt. On va parler éventuellement d'affection, de très très peu de mariage d'amour, mais par contre d'ambition d'être heureux, de bonheur conjugal éventuellement. En revanche, là où le flirt, là où la sentimentalité a de la place, ça peut être dans la presse érotique et galante dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans laquelle, pour fidéliser son lectorat, cette presse ouvre des rubriques de rencontres par annonce. Donc, dans cette presse, il y a différents titres. Vous avez ici « Séduction » à l'image, mais aussi « Froufrou », qui ouvre un petit courrier et qui reçoit très rapidement beaucoup de propositions.
Petit courrier de Froufrou du 1er janvier 1923. Trottin. Sous ce vocable, c'est un étudiant étranger, blond, de 19 ans, qui désire correspondre avec une demoiselle également blonde et de même âge. Jean Berthaud aurait droit à une marraine puisqu'il est militaire, mais il se contentera d'une correspondante sentimentale. HP 295 dissimule sous ses sévères initiales chiffrées une âme artistique. Il aimerait s'entretenir de questions d'art avec une jeune fille qui fit de la peinture. Jacques numéro 7 est un brun de haute taille, mais ces détails ont peu d'importance puisqu'il s'agit seulement de correspondre avec jeune demoiselle qui néanmoins pourrait avoir 20 ans et être blonde pour lui plaire tout à fait. Lulu n'est qu'un petit fantassin lyonnais. Lui aussi a droit à une marraine. Quelle correspondante le pourrait bien devenir. Roger est jeune et n'a point de petite cousine à qui écrire. Mais il en peut trouver une, n'est-il pas vrai, mesdemoiselles ? Bouclette est une charmante toute jeune fille aux cheveux blonds bouclés qui désire correspondre avec un jeune homme de 24 à 28 ans, grand, chic et sérieux. Rêveur est un bachelier à 20 ans et il a bon caractère, il aime les blondes et serait charmé qu'une d'entre elles consentît à correspondre avec lui. Son rêve serait qu'elle fût parisienne. Tendre et aussi délicieusement gentille que possible. Est-ce trop difficile ? Titus a 23 ans, il est grand et brun, ni trop beau, ni trop laid, et habite le midi. Il est rêveur, aime la musique et la nature, il fait du rugby et du tennis. Il désirait trouver une blonde et charmante correspondante de 18 ans, qui voulait bien causer avec lui de tous les sujets, et surtout des plus froufroutants. JMG est un jeune séminariste, désirant mettre sa foi à l'épreuve. Et qui engagerait un tournoi épistolaire avec un démon en jupon. Aiguisez vos flèches, Cupidon, car le bouclier est d'airain. Bon, Lynn, à 35 ans, n'est point jolie, mais elle est très délaissée. Elle serait heureuse de correspondre avec monsieur sérieux de 45 à 50 ans qui aiguerait sa solitude. Géo a 21 ans, il est grand, brun, désirerait froufrouter avec une gaie et gentille froufrouteuse. Le garçon cherche une garçonne. Il espère trouver sous la forme aimable d'une correspondance froufrouteuse. Jean 7 cherche une âme, mais il la désire supraterrestre. Il suffirait qu'elle descendît à assez de réalité pour consentir à lui écrire. Jean 7 est châtain et de physique agréable. ce qui ne saurait gâter en rien les lettres qu'il écrira. Mère Lebrun serait heureux de siffler et persifler avec une gentille et spirituelle merluchonnette. Friquette désire tout simplement correspondre avec un jeune homme. Charmant programme. Nokgadn aimerait correspondre avec un marin et charmer par ses lettres la mélancolie lointaine de son correspondant. Gros Pépère ne ressemble pas du tout à son pseudonyme. Il cherche à ensoleiller sa vie par l'aimable babil d'une correspondante à laquelle il ne demande que cette qualité, à vrai dire essentielle, qu'elle soit sérieuse.
Alors, première différence majeure avec les annonces matrimoniales, ici on a des pseudonymes. Et ces pseudonymes sont, vous l'avez vu, l'occasion de toutes les inventions possibles, ou les moins inventives. J'en cite, il y en a peut-être 6 derrière, on ne sait pas. Et en tout cas, c'est une manière de se mettre en scène, et c'est aussi un nouveau vocabulaire de la séduction. Vous avez entendu plusieurs fois l'expression froufrouter. Qu'est-ce que ça veut dire, froufrouter? Le titre du journal fait référence en fait au bruissement des jupes, au frottement des jupons au moment où ils se relèvent pour laisser voir les cuisses. Donc froufrouter, vous avez l'image en tête. Et vous voyez que les critères physiques apparaissent aussi davantage. Et ils apparaissent, encore une fois, dans les yeux des hommes qui désirent des blondes. Des blondes et de préférence des petites blondes. Et ça, on le voit aussi dans les annonces matrimoniales. Lorsque j'ai fait des statistiques sur les mots qui revenaient le plus dans les attentes des hommes et les attentes des femmes, autant les hommes veulent des petites blondes et les femmes veulent des grands bruns. Et ce qui est intéressant derrière ces qualificatifs, c'est qu'il y a tout un imaginaire social qui est fait de stéréotypes de genre. Derrière le couple du grand brun et de la petite blonde, il y a aussi des rapports de pouvoir. La différence de taille, elle a été analysée, notamment par l'anthropologue Priscille Touraille, comme aussi un rapport de domination. La différence d'âge aussi est analysée de ce point de vue-là. Et la différence entre les couleurs de cheveux, le blond est une couleur associée plutôt à l'enfance. Ce sont les enfants qui sont blonds et qui ensuite, en grandissant, ont les cheveux qui deviennent de plus en plus foncés. Et donc un homme qui est arrivé à l'âge adulte doit être bien brun. Et du coup, la blondeur fait plutôt référence à la fragilité propre aux stéréotypes féminins. Et puis, il y a une nouveauté aussi dans ces annonces-là qu'on va très, très peu trouver dans les annonces matrimoniales, qui est plutôt même une figure repoussoire dans les annonces matrimoniales, c'est la garçonne. La garçonne, c'est cette jeune fille moderne dans l'entre-deux-guerres qui s'est coupée les cheveux courts, à l'image de ce que vous avez à l'écran, en dessous des oreilles, suivant la mode de la coupe à la garçonne. Sur le modèle de l'héroïne du roman de Victor Marguerite, un roman sorti en 1922, qui raconte l'histoire d'une émancipation féminine, une femme qui quitte son foyer, qui a des expériences lesbiennes, qui vit sa sexualité totalement librement, mais que le récit sauve quand même moralement en faisant épouser à cette jeune femme un ami de l'âge de son père. Mais néanmoins, c'est un récit c'est un livre qui a eu un grand retentissement, qui a fait scandale. Et pourtant, la mode de la coupe à la garçonne s'est complètement démocratisée. Et c'est véritablement une ligne de partage générationnel entre les femmes d'avant-guerre et les jeunes filles modernes, les parisiennes. Et précisément, dans Le Petit Courrier, l'idée d'une parisienne, c'est cette idée d'une jeune fille moderne qui va danser dans les clubs, qui écoute du jazz, qui éventuellement aussi danse les danses nouvelles, qui joue au tennis. Enfin, c'est toute une culture nouvelle qui fait la différence entre les femmes modernes et les femmes d'avant-guerre. Si bien que dans les annonces matrimoniales, lorsque certaines jeunes femmes avouent qu'elles ont les cheveux coupés, elles surenchérissent de garanties pour compenser cette erreur de modernisme en disant qu'elles ne sont justement pas trop modernes, qu'elles sont très sérieuses, qu'elles sont très femmes d'intérieur pour rassurer leur futur correspondant. Et puis, vous avez entendu aussi beaucoup de demandes de marraines. Et là, on n'est plus pendant la Première Guerre mondiale. On est a priori en temps de paix. Mais en fait, il reste quand même beaucoup de militaires qui font leur service, et notamment dans l'Empire colonial. Et en fait, ce type de correspondance entre des marraines de guerre et des soldats, il s'est transformé en un mode de flirt épistolaire, soit entre des militaires et des soldats, soit simplement entre des jeunes hommes, pas entre des militaires et des soldats, excusez-moi, ça, on n'en est pas là, entre des marraines et des soldats, soit entre simplement des jeunes hommes qui se sentent seuls et qui cherchent une correspondance par là. Et très souvent, ça permet aussi d'identifier des lieux d'exclusion et au nombre desquels les sanatoriums. Il y a beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles qui cherchent des marraines et des parrains dans les sanatoriums et qu'on peut retrouver, qu'on peut identifier dans ces annonces-là sous l'expression d'allongés, parce qu'ils sont allongés pour traiter la tuberculose dans les sanatoriums. Donc, ce flirt épistolaire à grande échelle est vraiment une caractéristique de la période de l'entre-deux-guerres. Et contrairement aux annonces matrimoniales, où on a simplement une annonce qui est écrite et qui s'en va, là, dans cette presse-là, on a les annonces, les demandes, mais on a aussi les réponses que cette presse s'amuse à donc mettre en scène et à faire lire, ce qui fait qu'on peut suivre des conversations d'une semaine sur l'autre.
Robert Millier, bonjour monsieur. Aimez-vous les brunes aux grands yeux noirs? Ne cherchez plus. Je suis celle-là que vous recherchez. J'ai 24 ans. Mais je dois vous prévenir, je suis moi aussi timide comme vous. Ni non. Réponse à 466, Carmen amoureuse. Je serais heureux de correspondre avec vous et de parler de Musset, notre auteur favori. Comme vous, je suis brun. Comme vous, j'ai les yeux noirs. Et je suis tout jeune, jeune sentimental. Réponse à 411, bouton d'or, jolie petite fleur. M'agréez-vous comme correspondant? Je patine bien, je danse mieux encore. Je suis bon dessinateur et musicien plein de talent. Si vous m'agréez, ô bonheur, répondez-moi par la voix de Froufrou, l'arlequin. Réponse à Tite frileuse, au cœur brisé. Et à Gabi la blonde, j'aimerais correspondre avec vous. Je suis grand, rasé, j'ai beaucoup souffert et... je me tiens à disposition de celle qui la désirera, une lettre sincère reflétant mes sentiments aimants. Kiss and falling. Réponse à 365, Dédé de l'heure. En lisant le petit courrier, j'ai été ému par votre appel et je m'empresse d'y répondre. Dédé. Réponse à 417, Lucette. Je suis votre idéal. Je suis gay, peintre et musicien, correspondant, signé bijoux. Léo à Gilberte. Le hasard, mademoiselle, qui est le dieu de l'amour, s'est plu à nous rassembler dans la même colonne de froufrous. Et de si près que j'ose à peine le souhaiter mieux. Quel autre sujet pourrions-nous, en l'occurrence, mieux traiter que celui-ci? Vaut-il mieux flirter de loin que de près? Et j'attends avec bien de l'impatience votre réponse et dois-je vous dire celle que je souhaite. Épagneul bleu et morose, pour dissiper son chagrin... quelle correspondance lui apportera-t-elle de littéraire consolation? Qu'elle dise surtout à cette épagnole de ne point donner de coups de caniche dans son contrat.
Donc dans les exemples que vous avez entendus, ça ne vous a peut-être pas tout de suite frappé, mais ce sont les hommes qui répondent. Et ça, c'est une caractéristique très pérenne de l'histoire du marché de la rencontre. Le rapport de séduction, il est façonné par le modèle selon lequel c'est l'homme qui propose et c'est la femme qui dispose. Alors même que à l'agence matrimoniale du début du 19e siècle, c'était on ne peut plus évident puisque une majorité des femmes ignorait qu'elle était dans ces registres. Dans les annonces, a priori, les femmes s'inscrivent d'elles-mêmes, sont tout à fait en mesure d'écrire à des hommes. Et pourtant, dans les pratiques, ce modèle-là fonctionne toujours. Et il est entretenu aussi par la presse matrimoniale qui réprimande ses lecteurs, ses abonnés hommes, lorsque ceux-ci disent ne pas recevoir assez de réponses. Elle leur rappelle, messieurs, c'est à vous d'écrire les premiers, n'attendez pas qu'on fasse, c'est à vous de faire le premier pas, n'attendez pas qu'on vous écrive, c'est quand même une galanterie française à laquelle nous devons, vous devez de répondre. La deuxième caractéristique des annonces que vous venez d'entendre, c'est qu'on pourrait penser que dans cet autre marché-là, où il n'y a plus de dot, il n'y a presque plus de profession, on pourrait penser qu'on est dans un marché libre des désirs, où ce qui compte, c'est les traits d'esprit, c'est la blondeur, c'est etc. Tout un tas de caractères très personnels. En réalité, l'amour n'est pas aveugle, et loin de là. Simplement, les capitaux économiques, le capital social et économique, qui se disait de façon très explicite dans les annonces matrimoniales, dans ces annonces-là, se dit de façon beaucoup moins explicite. C'est même plutôt le capital culturel qui est dit de façon implicite. Le fait d'aimer telle lecture, la référence cinématographique qu'on va choisir pour son pseudonyme. Et ce déplacement-là, de la manière de dire l'économie pour que quand même on se retrouve à discuter avec des gens qui nous ressemblent un peu socialement, ce déplacement, on le voit entre les annonces matrimoniales de l'entre-deux-guerres et la presse galante de l'entre-deux-guerres, mais on le voit aussi entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle, où on dit beaucoup moins ses apports économiques et on va dire de façon détournée la situation sociale. Ces deux aspects-là, cette dimension selon lequel le rapport de séduction est à l'avantage des hommes et selon lequel l'amour n'est pas aveugle, c'est quelque chose qui est analysé aujourd'hui par les sociologues qui travaillent sur les sites de rencontres et qui ont documenté la manière dont il y avait une injonction pour les femmes à la réserve et au contraire une injonction pour les hommes à être dans l'activité, dans rechercher, être toujours dans ce premier pas là. Et au moment où la dernière page du livre se retourne, se ferme, l'histoire ne s'arrête pas. L'histoire ne s'arrête pas puisque le livre s'arrête dans les années 40-50, mais les petites annonces ne disparaissent pas de la presse. Alors la presse matrimoniale et la presse galante telle que je vous l'ai présentée ne survit pas telle qu'elle à la Seconde Guerre mondiale. En revanche, on va retrouver des annonces matrimoniales dans de la presse générale. Le Chasseur français, que vous connaissez peut-être, avait déjà des annonces dans l'entre-deux-guerres. Il continue d'en avoir et de plus en plus dans les années 50 et 60. C'est d'ailleurs dans ce journal-là qu'on sait qu'on va trouver des annonces pour se marier, alors que dans d'autres journaux, comme Paris Soir et puis ensuite dans Libération, les annonces sont donc plus généralement des annonces de rencontres et pas forcément pour trouver à se marier. Il y a donc une diversification de l'offre à la faveur aussi de la diversification des parcours de vie. À partir des années 70, on se marie beaucoup moins, il y a une baisse de la nuptialité, on se met en couple plus tard et on peut avoir différentes expériences intimes. Et c'est ce qu'on voit avec les annonces du journal Libération, que vous connaissez peut-être, qui, au début des années 80, fait paraître un supplément, le supplément Sandwich, qui permet de faire paraître des annonces totalement gratuites, c'est ce qui a permis aussi son succès, dans lequel il y a diverses rubriques, et là, désormais, il faut expliciter le but de la rencontre, puisqu'il ne s'agit pas de se marier, il faut expliciter ce que l'on cherche, et le rubriquage aide un petit peu à cela.
Mariage blanc, par exemple. Si vous voulez lire Libé, homme 35 ans, grand, brun, viril, présentable, tunisien, cherche femme de 25 à 40 ans, esprit de gauche, pour mariage et amitié. N'importe quelle race, même grosse ou noire, mais elle doit prendre la vie au sérieux. C'est très sérieux. Et merci à Libé. Bon, remarque. Je suis très fidèle à Libé. J'ai dans ma cave plusieurs dizaines de kilos de Libé. Monsieur Ouled, poste restante, rue Saint-Clair-de-Ville, 7512 Paris. Si la rubrique très célèbre dans Sandwich, Tollard, Tollarde. Ni beau, ni laid. Je suis un jeune qui débute dans la vie et je suis en prison pour une durée indéterminée. Je suis ni beau, ni laid et j'ai 19 ans et les yeux bleus. J'adore Johnny, Eddie et les groupes de bon rock. Le disco et, manque de chance, la liberté. Toutes les personnes partageant mes goûts peuvent m'écrire pour briser ma solitude. Emery Joël, Fleury-Mérogis. De 15 à 100 ans. Nous sommes deux jeunes Marocains de la région d'Agadir et nous partageons la même cellule. Nous voudrions correspondre avec des filles et garçons de 15 à 100 ans et de toute nationalité. Nous sommes très beaux, sportifs et taillés en V. Nissa Mohamed et Berlazi Mohamed. Et enfin, la rubrique chérie, cérébrale. Jeune homme, 30 ans, grand et mince, très cérébral et plein de fantasmes. Et c'est rare par les temps qui courent, baignant dans la solitude et ne s'y sentant pas spécialement à l'aise. Aimerait rencontrer jeune fille ressentant le même vide existentiel. Vicieuse malgré tout. Faut bien que le corps exulte. Histoire de voir si les atomes peuvent être encore crochus à défaut d'être nucléaires. Berne Jean-Pierre, poste restant 38 rue Claude Bernard, Paris 5e. Deuxièmement, cherche Nana, sympa, mignonne, de 18 à 35 ans, connaissant toutes les vertus de l'amour, et pouvant m'héberger deux ou trois soirs par semaine. En récompense, je lui donnerai tout et même plus. Marre de regarder par la fenêtre. Marre d'une vie de solitude, quelquefois entrecoupée d'aventures de quelques jours, quelques mois, puis de solitude encore plus cruelle. Marre de me voir faire les mêmes gestes, de m'entendre faire les mêmes bruits. Marre de penser tout en haut pour cesser dans ma tête ce boucan de chuchotements incohérents, inexpliqués, mais qui occupent. Marre de regarder par la fenêtre la venue miraculeuse du dernier mec que j'ai passionnément aimé. Marre d'être triste, marre de pleurer sur les genoux du canapé. Marre d'être seul. Alors si vous pensez qu'un homo, c'est pas toujours très laid, que c'est pas trop gros, trop grand, que ça dérange pas trop les voisins, que c'est pas toujours bête, et que par contre ça peut vivre en communauté avec d'autres filles et garçons, alors je suis prêt à vivre avec vous, homo ou non homo, dans un maximum de simplicité, de liberté et d'amour. J'ai 28 ans. Et je travaille. Robert Godard, poste restante, Lyon-Vaise, place du marché. 1T. Nous sommes deux copains homos, sympas, simples. Recherchons d'autres homos pour prendre un thé. Rencontre le 9 février 80. Amitié, 6 contacts positifs. Pas sérieux, s'abstenir.